Monsieur Vallon, c'est à vous.
Merci beaucoup. Donc j'ai l'habitude de bouger, vous ne m'en voudrez pas, j'espère, parce qu'en fait, certaines personnes disent que je leur donne le tournis, mais en fait, c'est parce qu'elles sont un petit peu près, donc je ne vais pas trop m'approcher de vous. Alors donc, je me présente, je m'appelle donc Philippe Vallon, je suis médecin, je suis psychiatre, vous savez, c'est-à-dire spécialiste des problèmes psychologiques. Je suis également psychothérapeute, c'est-à-dire pour l'essentiel, je travaille avec la parole et moins avec les médicaments, un petit peu avec les médicaments, ce qui est fait hurler dans certains salons. Mais il faut savoir que les médicaments sont souvent utiles, il faut savoir s'en passer. Et je suis également chargé de recherche à l'INSERM, c'est-à-dire que j'ai fait 15 ans de recherche à partir des années 80, enfin, dans le cadre national, je dirais, de l'INSERM, l'Institut National de Santé et de la Recherche Médicale. Et je suis actuellement en disponibilité pour convenance personnelle pour des raisons essentiellement financières, parce que ce que vous savez peut-être par tous les journaux qui paraissent là-dessus, c'est que la recherche est très très mal payée. Et quand on a 4 enfants comme moi, c'est dur. Bon, je ne vais pas vous faire pleurer, mais la médecine est finalement plus rentable. Surtout que j'écris beaucoup d'ouvrages, comme vous le verrez après, j'en ai écrit 17 pour ne rien vous cacher. Et donc, si vous voulez, je fais plutôt de la recherche privée, je vais dire, avec des collègues, d'ailleurs avec des facs, plus que des recherches à l'intérieur de l'INSERM. Mais je poursuis très exactement mes titres et travaux, et ce qui surprendra un certain nombre d'entre vous, parce que j'ai un certain nombre de travaux sur le paranormal. Et vous allez peut-être me demander, est-ce que l'INSERM accepte le paranormal? Eh bien, ils acceptent tellement le paranormal qu'en fait, ils m'ont demandé à leur bibliothèque tous les ouvrages. Et à chaque fois qu'ils n'en ont pas, ils m'appellent en me disant, écoutez, il y en a un qui est apparu et nous ne l'avons pas. C'est pour vous dire que les sciences, contrairement à ce qu'on dit, acceptent le paranormal et ne sont pas du tout aussi sectaires qu'on veut bien le dire et que certaines personnes, souvent d'ailleurs n'appartenant pas au milieu de la recherche, veulent donc colporter. Alors aujourd'hui, on ne va pas du tout parler de ça puisqu'on va parler d'en finir avec les conflits. Alors, je ne sais pas si vous le savez, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle donc Tout est psy, sortait de la déprime, des angoisses et des conflits, qui est apparu donc aux éditions du Rocher en début de cette année. Même si c'est un texte que j'avais écrit il y a quelques années, en fait, l'éditeur m'a demandé une chose un peu particulière. Il m'a demandé de faire un livre en questions et en réponses, avec des questions portant sur pratiquement l'ensemble de la pratique que j'ai depuis 35 ans en tant que psychothérapeute. Et ensuite, ces réponses ont été cherchées dans un manuscrit que j'avais écrit donc il y a quelques années par ma jeune collègue qui donc signe l'ouvrage avec moi. Et l'éditeur m'a demandé donc de faire une partie supplémentaire avec l'ébauche des maladies, enfin disons des notions très succinctes sur les maladies et les médicaments. Mais je ne viens pas faire de la pub aujourd'hui, mais vous parler en fait de ce qu'on appelle des thérapies courtes et ce que j'appelle même des thérapies très courtes et même ultra courtes. Pourquoi? Parce que c'est un peu un paradoxe, je veux dire. La psychanalyse qui est dominante en France nous a habitués finalement à voir les psychothérapies durer des années et voire même des dizaines d'années. Il n'y a même pas une semaine, j'ai vu une personne qui m'a dit qu'elle voulait absolument être soulagée de ses angoisses et qu'elle faisait une psychanalyse depuis 17 ans justement pour ses angoisses. Et donc elle me demandait une solution rapide. Bon, j'ai essayé de lui donner, mais enfin disons que 17 ans, j'ai trouvé que ça faisait quand même beaucoup. Alors, en quoi je vais pouvoir aujourd'hui, en 3 quarts d'heure, vous aider sur la manière d'en finir avec les conflits? Alors aussi, je ne vais pas, bien sûr, ultra courte. En général, c'est dans 1 à 5 séances. Ce n'est pas en 3 quarts d'heure comme aujourd'hui, et surtout, je dirais, une séance collective. Mais, disons, de vous donner des règles simples. Et un certain nombre de mes collègues disent effectivement qu'il s'agit d'évidences qu'il est bon de rappeler. En fait, ce ne sont pas tellement des évidences comme la plupart des évidences, ce sont des choses sur lesquelles on ne s'est pas interrogé. C'est-à-dire qu'en fait, quand on examine un petit peu les choses, on voit qu'elles sont singulièrement plus complexes qu'on veut bien le dire. Donc, je vais vous, comme nous avons 3 quarts d'heure, je vais donc procéder à cette thérapie collective. Pour vous permettre, je ris parce que, en fait, si vous voulez, je vais tâcher de vous aider tout de même en 3 quarts d'heure, mais vous devinez que c'est un peu un paradoxe. Mais il n'empêche que l'autre, donc pas plus tard qu'hier, il y a une patiente à qui j'ai dit, écoutez madame, je suis désolé, vous savez que les patients doivent pouvoir dire tout ce qu'ils veulent à leur thérapeute, mais je dois vous annoncer que les thérapeutes doivent aussi dire tout ce qu'ils veulent, ou tout ce qui leur semble bon aux patients, même si ça leur apparaît un petit peu ridicule. Je lui ai dit, madame, écoutez, il faut que je vous dise une chose, je ne vous reconnais pas. Alors elle s'est un peu étonnée et je lui ai dit oui, ce qui se passe c'est que je vous ai vu une fois, je vous ai donné un exercice écrit, donc celui qu'on va voir dans quelques instants, et j'étais tellement déprimé sur votre attitude que j'ai écrit à votre médecin comme quoi je ne pensais pas pouvoir vous traiter de manière valable. Et je vois aujourd'hui une femme dynamique qui semble avoir mis, disons, ses problèmes au second plan et qui semble donc être vraiment sortie de ses difficultés, au moins pour une part. Elle me dit, écoutez, vous ne croyez pas que vous êtes ridicule parce que mon mari m'a dit exactement la même chose. Alors, de quel exercice il s'agit ? D'un exercice tout à fait simple, mais qui est un peu complexe dans sa théorie. Mais au niveau pratique, c'est assez simple. Je vois qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui ont des papiers, donc on va faire l'exercice tout de suite. Quand vous avez donc un conflit avec une personne de votre entourage, il faut savoir que le plus souvent, il s'agit d'un problème de communication. De communication, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas arrivé à lui parler de manière valable. Vous lui parlez même quotidiennement. Je pense que quelque part, vous arrivez à lui demander le sel, par exemple, à lui passer. Mais quand il s'agit de choses plus compliquées, ça devient beaucoup plus difficile. Et il y a des interactions extrêmement complexes qui se mettent en jeu à votre insu et qui font que finalement, le dialogue devient catastrophique. Alors, bon, ça peut être donc avec votre conjoint, ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec vos parents, ça peut être avec des gens plus éloignés, votre employeur, vos collègues de travail, etc. La règle est toujours la même. Il s'agit donc de communiquer. Comme vous êtes aujourd'hui dans un salon qui traite du livre, psy, ça veut dire qu'en principe, vous êtes capable de lire et d'écrire. Je dirais que, bon, on ne vous demande pas d'avoir un QI à 180. Mais disons que vous êtes tout à fait capable d'utiliser l'écriture. Il faut savoir que les gens qui peuvent utiliser l'écriture s'en sortent à peu près 3 fois plus vite que les autres. Pourquoi 3 fois plus vite ? Parce qu'en fait, en général, on voit son thérapeute à peu près 1 fois par semaine. Et de fait, si on arrive à faire des exercices écrits chez soi, eh bien, on arrive à faire quasiment 1 à 2 séances supplémentaires, ce qui fait donc 2 et 1, ça fait 3. Et donc, on va donc plus 3 fois plus vite. On économise en tout cas 2 séances qui se révèlent donc inutiles. Alors, en quoi consiste cet exercice ? C'est un exercice très particulier, mais d'une simplicité biblique, c'est-à-dire que vous allez prendre une feuille A4, vous pouvez le faire tout de suite, mais vous n'allez pas terminer l'exercice, bien entendu, dans l'instant, je vous donne juste ces principes. Vous allez prendre une feuille A4 que vous allez mettre dans le sens de la longueur, c'est-à-dire de la hauteur, c'est-à-dire que vous allez avoir la plus grande dimension face à vous, et vous allez vous adresser à la personne avec qui vous êtes en conflit. Alors, ça peut être donc votre père, votre mère, votre mari, votre femme, votre compagne, etc., votre compagnon. Et vous allez écrire une véritable lettre, c'est-à-dire que vous allez mettre la date, ce qui est très important. Vous allez mettre ensuite l'intitulé, chérie, Jacques, Paul, Jean, Marie, etc., peu importe. Et ensuite, vous allez écrire. Vous allez écrire suivant des règles assez précises, c'est-à-dire que vous allez d'abord réserver des marges. Pourquoi les marges ? Pour pouvoir corriger. Ensuite, vous allez écrire en double interligne, pour la même raison, pour pouvoir corriger. Parce que si, au bout de quelques minutes, votre lettre est extrêmement sale, vous n'arrivez pas à tirer l'essentiel de cet exercice. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la base de cet exercice, qui est assez théorique, mais que vous allez réaliser au fur et à mesure que vous ferez ce type d'exercice, c'est que nous avons à l'intérieur de notre cerveau, de notre tête, un cerveau qui est extrêmement complexe et qui est constitué d'un certain nombre d'éléments qui ont des fonctions différentes. Et celle à laquelle je m'adresse, là, c'est ce qu'on appelle le gyrus singulaire, c'est-à-dire, si vous voulez, aussi le singulum, qui a une particularité, c'est qu'il renferme le sens de la réalité. C'est-à-dire, si je vous dis, regardez ma belle boule rouge, vous l'avez vue tous, eh bien, vous allez dire, qu'est-ce qu'il veut nous dire celui-là, parce que ce n'est pas une boule rouge qu'il a au bout des doigts. Vous avez vu que c'était une montre. Et tant que je n'aurai pas de boule rouge, eh bien, votre sens de la réalité ne va pas s'éveiller, et je dirais qu'il continuera à dormir tant que vous n'aurez pas présenté une chose qui est relativement semblable à ce que vous présentez. C'est-à-dire, si je vous parle d'horloge, vous allez dire non, non, c'est une montre. Bon, mais votre sens de réalité va déjà réagir, alors que vous avez tout à l'heure, quand je vous parlais de boule rouge, vous êtes resté dans l'étonnement et dans la stupéfaction. Donc l'idée de base, c'est que quand vous avez une idée en tête, eh bien, vous ne pouvez pas en avoir deux, ou si vous en avez deux, c'est un grand maximum, vous ne pouvez pas en avoir 3. Si vous avez un texte sous les yeux, eh bien vous pouvez scanner, c'est-à-dire passer comme un scanner. Vos yeux peuvent scanner cette feuille en moins d'une seconde. Ils peuvent même, d'ailleurs, il y a des physiologistes qui sont intéressés à ça. En fait, votre œil balaye la feuille sans vous en rendre compte, et vous pouvez donc avoir à peu près 25 à 30, parfois 50 lignes en tête sans vous en rendre compte et d'une manière strictement instantanée. C'est-à-dire que vous passez, rien que pour l'avoir écrit, d'un facteur 2 à un facteur 25 à 50 suivant les cas. C'est-à-dire que vous allez, sans vous en rendre compte, établir des connexions sensorielles, des connexions donc, on va dire, intracérébrales, et qui vont fonctionner dans l'immédiat alors que vous ne vous en préoccupez pas du tout. Et qu'est-ce qu'avait fait cette femme que je vous ai mis en scène tout à l'heure ? C'est-à-dire qu'elle a écrit une lettre superbe, une lettre tout à fait correcte, et qui lui a permis de prendre en compte des facteurs, et c'est ce qu'elle m'a expliqué. Donc elle était arrivée, alors qu'elle avait un énorme conflit avec sa mère, et je lui avais demandé d'écrire à sa mère, eh bien elle avait réussi à prendre des distances avec tous ces conflits, et malgré tout le mal que cette mère lui avait fait, à lui pardonner. Et c'était marqué à la fin de la lettre. Et donc il a suivi de cet exercice qui lui a pris à peu près une heure et demie pour se sortir d'affaire alors qu'elle avait fait 15 ans de psychanalyse avant. Bon, évidemment je suis un petit peu schématique parce que si elle n'avait pas fait cette analyse, elle n'aurait sans doute pas réussi à aller jusqu'au bout de cet exercice. Mais ce qui se passe et ce qu'oublient parfois les psychanalystes, c'est quelquefois il faut des méthodes annexes, complémentaires, je dirais parallèles à la psychanalyse pour permettre à la personne d'accélérer le processus thérapeutique. Alors cette lettre, je ne m'arrête pas à ces consignes, il y en a deux autres. Vous allez prendre la règle du millefeuille. Que c'est que le millefeuille? C'est-à-dire que vous allez, en fait, au lieu de faire une lettre remplie de reproches, ce qui va vous salir la tête, les yeux, les mains, la bouche, même si vous parlez après, et quelque part, vous allez avoir le sentiment d'une rancune qui va s'exacerber au fur et à mesure que vous allez écrire. Que c'est que ce millefeuille? C'est-à-dire que vous allez, pour chaque chose que vous allez présenter, qui sera donc de l'ordre de reproches du passé, vous allez associer également des projets relatifs à l'avenir. Je vais vous donner un exemple. C'est par exemple si vous dites à votre père ou à votre mère ou à votre conjoint « Tu ne m'as jamais laissé parler », et puis vous continuez sur ce thème, vous allez dire maintenant « J'aimerais que nous puissions élaborer des espaces de parole où j'aimerais que nous puissions, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, etc., nous fixer des dates et des heures pour arriver à en fait ne pas rester dans le silence et nous forcer finalement à ces dialogues. » Alors, il y a un ouvrage que je cite assez souvent qui s'appelle « Mais tu ne m'avais jamais dit ça » aux éditions Jouvence, il doit être là d'ailleurs en librairie, et qui présente cette méthode d'une manière assez formelle, c'est qu'il dit donc que chaque semaine, on doit se réserver deux espaces de parole, où l'un, c'est la première personne qui parle et qui n'est pas contredite par la seconde, c'est-à-dire l'autre se tait, et l'autre espace de parole, c'est que c'est la seconde personne qui parle et la première qui se tait. Alors, c'est assez curieux, mais quelquefois, un formalisme est absolument nécessaire. Formalisme, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que, si vous voulez, chaque semaine, on instaure que, par exemple, le mardi ou le jeudi, ou le lundi et le dimanche, je ne sais pas exactement, vous avez ces espaces de parole et qui vous obligent, finalement, à parler et à, donc, vous écouter mutuellement. Parce qu'un autre de mes principes, à part le millefeuille, c'est Apollo 13. C'est qu'Apollo 13, vous avez vu peut-être le film, c'était donc une capsule qui a eu la particularité de se mettre en panne alors que les cosmonautes étaient donc très très loin de la Terre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les cosmonautes ont appelé la Terre, ils leur ont dit « voilà, nous n'avons plus d'ordinateur, nous avons terriblement froid, etc. etc. » Plus rien ne répond. Et la Terre leur a dit « écoutez, dites-nous exactement ce qui se passe, décrivez-nous ce qui se passe et nous allons modéliser vos problèmes. » C'est-à-dire qu'avec nos ordinateurs, avec notre réflexion, avec toute notre équipe, nous allons essayer de reproduire très exactement ce dont vous souffrez. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'avec cette série d'échanges qui a duré donc quelques heures, je crois même 48 heures, eh bien, ils ont réussi à ramener la capsule à la Terre. C'est-à-dire qu'en fait, avec la parole, on peut faire quasiment tout. Bon, on peut aller au pôle Nord, on peut aller dans les déserts les plus arides. En tout cas, on peut aller dans des lieux où jamais l'animal n'a pu séjourner longtemps. Tout ça parce que nous pouvons communiquer les uns avec les autres. Donc on dit la parole c'est la vie, dans les évangiles vous savez on dit au début était le verbe, c'est-à-dire que depuis l'antiquité la plus profonde, on estime donc que l'échange est, je dirais, le fondement de la vie, peut-être même avant la nourriture elle-même. Est-ce que ce type de lettre est suffisante? Alors vous allez dire qu'est-ce que je vais faire d'abord avec cette lettre? Eh bien dans un premier temps vous n'allez pas l'envoyer, il est très important de vous dire cette lettre au bout du compte va arriver à son destinataire. Mais dans un premier temps, et c'est là le problème, c'est que ce que vous allez écrire va être donc terriblement dur, terriblement fort, très spontané, etc., souvent très agressif, et vous allez avoir du mal, je veux dire, si vous vous limitez à ces paroles et à ce qui correspond à ce que vous avez écrit, vous n'allez arriver qu'à des catastrophes. Donc ensuite, vous allez laisser mûrir. Vous savez que les bons vins, on les laisse mûrir. Vous savez que les fruits, parfois, on les laisse mûrir pendant l'hiver. Là, vous allez laisser mûrir. C'est-à-dire que vous allez laisser passer le temps dessus. C'est pour ça que la seconde règle, si vous reprenez ce texte au bout de quelques jours, c'est que vous n'allez pas noircir, comme on fait quelquefois, les mots qui ne vous plaisent pas. Vous allez les rayer d'un seul trait. Pourquoi les rayer d'un trait? Parce que vous allez pouvoir lire dessous et éventuellement, dans un troisième temps, reprendre ces éléments pour les réutiliser à nouveau si vous jugez que c'est utile. Cet exercice paraît d'une grande banalité, mais ce qui est assez curieux, c'est qu'avec un certain nombre de patients, ça a permis de faire accélérer les choses d'une manière extraordinaire. Et quelquefois, comme je vous disais, de résoudre des problèmes en une séance. Je vais vous donner un autre exemple. C'est que j'ai une femme comme ça qui avait des grands problèmes avec sa sœur, qui l'avait ruinée, il faut bien le dire, enfin qui l'avait très largement ruinée, si elle n'avait pas perdu tous ses biens. Elle m'a dit, j'ai en plus mal à la tête de manière permanente, je suis bourré d'angoisse, est-ce que vous ne pouvez pas me donner des médicaments, etc. Alors j'ai dit, madame, je vais peut-être vous donner des médicaments, mais vous allez écrire à votre sœur. J'ai vu une première lettre qui était donc terriblement agressive, et surtout une chose, c'est qu'elle n'était pas concrète. Alors ça, c'est une autre règle, écrivez des faits concrets. Si vous dites donc tu ne m'aimes pas ou des choses comme ça, ça ne marchera pas. Vous dites tel jour, par exemple, alors que j'attendais de toi un geste, alors que j'étais moi dans le désarroi, tu es venu mais tu ne m'as rien dit de gentil, etc. Enfin bon, et ensuite vous corrigez, comme je vous ai dit, avec le projet, j'aimerais que nous ayons donc des moments où nous puissions nous parler, etc. Bon. Et donc des choses concrètes. Bon. Et donc cette femme, je lui ai fait corriger dans ce sens-là, c'est-à-dire que je lui ai donné les conseils, il a réécrit la lettre. Et puis, au fur et à mesure de ces entretiens, donc ses angoisses ont diminué, son mal de tête est devenu plus rare. Et au cinquième entretien, elle m'a dit, écoutez, je ne souffre plus de rien, je n'ai plus d'angoisse, plus de mal de tête, etc. J'ai dit la lettre où elle est, elle me dit, elle est dans ma poche. Bon. Et en fait, ce qui était assez curieux, c'est que cette femme donc, avait réglé tous ses problèmes apparemment sans avoir envoyé cette lettre à sa sœur. Mais elle s'était mis dans la tête, et comme je vous propose de le faire, que cette lettre partirait un jour. Vous voyez ? Une autre femme me disait qu'elle avait des problèmes considérables avec son père, qui avait été d'abord extrêmement violent avec elle, et en plus qui était dangereux vis-à-vis de ses enfants, et qu'elle ne voulait absolument pas lui confier et même le rencontrer. Je lui ai dit, madame, écoutez, vous allez faire une lettre, etc., je lui ai donné les règles. Elle m'a dit, de toute façon, je ne ferai rien d'autre pour mon père. Je lui ai dit, écoutez, alors faites-le bien. Et donc elle m'a fait une lettre qui était quasiment parfaite en dehors d'un mot. Bon, il y avait un mot qui posait problème, mais le reste était tout à fait correct. Elle avait bien respecté les règles, et je lui ai dit, madame, bon, qu'est-ce que vous allez faire de cette lettre ? Elle me dit, je n'en sais rien. Et à votre avis, je lui ai dit, écoutez, vous pouvez faire trois choses, donc c'est ce que je vais vous dire maintenant. Soit vous pouvez l'envoyer, donc à votre père, l'envoyer. Soit vous pouvez lui remettre en main propre, en lui expliquant un peu ce qu'il en est. Soit vous pouvez lui lire directement, ou même exprimer les choses que vous avez écrites. Parce qu'il faut savoir une chose très particulière, c'est qu'à partir du moment où vous avez écrit les choses, ces choses-là vont se mettre donc en mémoire dans votre tête, donc dans cette zone très archaïque. Mais il faut savoir que c'est un magnétophone, cette zone. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous avez mis y entre, mais sortira à l'identique. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, mettre, je ne sais pas, tu es une ordure, ça ne va pas sortir, tu es gentil. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les mêmes termes que vous avez mis qui vont ressortir. C'est-à-dire qu'il s'agit de choisir des termes qui sont adéquats. Qu'est-ce que c'est qu'un terme adéquat ? Alors, c'est très simple. Si vous dites, par exemple, finir les conflits. Si vous dites, terminer avec tous ces conflits que j'ai avec mon entourage. Vous n'avez en fait ajouté que deux mots, je le souhaiterais ou je veux, etc. Et vous allez avoir le sentiment d'une chose beaucoup plus concrète. C'est pour ça que je demande que vous écriviez des phrases complètes, sujet, verbe, complément, pas d'abréviation, parce que cette zone archaïque n'est capable que d'enregistrer les choses et les recracher. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une mémoire réflexive, il s'agit juste d'une mémoire qui fait des entrées-sorties. Autre chose, il faut écrire assez gros, parce qu'il faut savoir que votre inconscient est très paresseux. Alors ça vous paraît un peu curieux ce que je vous dis là, c'est-à-dire qu'en fait vous avez les yeux qui envoient les messages à des quantités de zones du cerveau différentes, votre conscience bien évidemment, mais également votre inconscient. Et plus vous arrivez à des niveaux archaïques, plus ces niveaux, j'allais dire, sont paresseux, lents à se mettre en route, etc. Donc il faut arriver à le convaincre. Donc vous écrivez gros, vous écrivez lisiblement, donc pas de patte de mouche, parce qu'au bout du compte, vous allez fatiguer votre inconscient et votre inconscient ne va pas répondre, il ne va pas donc faire le travail que vous lui demandez. Donc ça, c'est la première chose, la lettre. Travaillez avec l'écrit parce que vous suscitez ce sens de la réalité dont on parle de temps en temps en physiologie, mais qu'on arrive peu à mettre en œuvre sur le plan technique. Et ce que vous pouvez faire aussi, parce que ce qui se passe souvent, c'est que quand vous êtes en conflit avec une personne, souvent c'est que vous ne savez pas qui vous êtes. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'en fait, vous envoyez malencontreusement des messages à la personne qui est en face de vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on dit, dans l'évolution, que nous descendons du singe. Eh bien, je vous dis, c'est totalement faux. Nous ne descendons pas du singe, nous sommes des singes. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'en fait, nous communiquons avec l'autre, mais nous communiquons bien sûr verbalement, vous m'entendez là, mais nous communiquons également d'une manière affective. c'est-à-dire d'une manière absolument spécifique et qui a des règles différentes de celles de, du langage concret, j'allais dire du langage habituel, parce que c'est un registre qu'on appelle anobjectal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est les psychanalystes qui l'ont mis en évidence. C'est-à-dire que quand je vous parle et que vous pensez à moi, vous pensez « il me parle ». C'est-à-dire qu'en fait, il y a une inversion entre le sujet et l'objet. Si vous pensez « Vallon », pour moi, c'est « je », pour vous, c'est « il ». Au niveau de la contagion affective, donc ce que nous mettons en œuvre dans les relations entre personnes, nous envoyons à l'autre exactement ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que si vous voulez, si vous êtes, enfin, j'appelle ça contagion, parce que si une personne, par exemple, a la variole, ne va pas transmettre la tuberculose, elle transmettra la variole. De la même façon, si vous êtes vous-même dans un, j'irais dans l'angoisse, vous allez transmettre de l'angoisse. Si vous êtes dans le bonheur, vous allez transmettre du bonheur. Si vous êtes déprimé, vous allez transmettre de la dépression, etc. etc. Donc la seconde règle, c'est d'arriver à transmettre un affect cohérent qui va permettre de, d'en finir donc, avec les conflits. Donc il faut absolument vivre intensément à vous l'affect que vous voulez transmettre à l'autre. Et ça, c'est une règle qui est très simple à mettre en évidence et qui a donné lieu à un ouvrage qui n'est pas de moi d'ailleurs, qui s'appelle « Influencer avec, avec intégrité », qui est à Interédition. Et vous voyez que le terme est assez curieux, « influencer avec intégrité ». C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de transmettre quelque chose à l'autre qui va l'influencer, mais de le faire d'une manière morale, évidemment, c'est assez élémentaire. Alors, en quoi ça consiste? C'est que si vous êtes en conflit avec une personne, vous pouvez bien sûr garder de la rancune vis-à-vis de cette personne, mais si vous voulez terminer ces conflits, il faut que vous arriviez à lui envoyer de l'amour. Alors, si c'est votre conjoint, ça peut être de l'amour affectif. Si c'est de l'amour, si c'est de, avec vos enfants, vos parents, c'est de l'amour filial. Si c'est avec une tierce personne, votre patron, un collègue de travail, etc., ça serait ce que Pradervant appelle de l'amour divin. Et lui, il a un terme que j'aime beaucoup, c'est bénir. Bénissez les gens qui sont autour de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne s'agit pas de leur envoyer de l'amour physique, affectif, filial, etc. Il s'agit en fait de faire retomber sur eux des, ce qui concerne l'harmonie, l'harmonie universelle à peu près, qui est donc, si vous voulez, ce qu'on appelle très schématiquement l'amour divin. Je vais vous donner une anecdote à ce sujet qui est assez amusante. C'est qu'un jour, je vois une femme qui me dit « Écoutez, voilà, je suis restauratrice à Paris, nous avons une affaire qui marche si bien que nous avons acheté l'immeuble, mais mon mari est en train de fricoter avec la caissière et je sens que nous allons divorcer. » Je dis « Madame, est-ce que vous aimez votre mari ?» Elle me dit « Oui, je l'aime. » Je dis « Madame, ce que vous allez faire maintenant, c'est que dès que vous allez d'abord vous emplir l'esprit et le corps de l'amour que vous portez à votre mari. Et dès que vous allez être en face de lui, eh bien, au lieu de lui envoyer de la rancune, au lieu de penser à la, donc à la caissière, vous allez penser à l'amour que vous lui portez. Et vous allez lui envoyer cet amour avec une grande intensité. » La fois suivante, elle revient furieuse. Je lui dis « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors, donc, elle me raconte un peu cette histoire. Je lui dis « Madame, voilà ce que vous avez fait. C'est que vous avez très carrément, je dirais, fait ce que je vous ai demandé. Et je peux vous assurer que je n'ai pas influencer votre mari, je ne lui ai pas téléphoné, je ne lui ai pas écrit, je ne suis pas entré en contact avec lui. Et son comportement n'est expliqué que par ce que vous avez fait vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, vous lui avez envoyé de l'amour, et comme c'était une simple illusion que vous aviez à propos de la caissière, eh bien, il vous a renvoyé cet amour, et son comportement a changé du tout au tout, dans l'instant même. Bon, elle était un peu incrédule, elle m'a parlé à ce moment-là de son fils qui n'allait pas bien aussi, je lui ai dit « Écoutez, vous allez faire la même chose, etc. etc. » La fois suivante, le problème était réglé, et la fois d'après, elle m'a dit « Mais écoutez, j'ai encore des problèmes avec ma belle-fille, je lui ai dit « Écoutez, vous allez faire la même chose. » Et donc, à la quatrième séance, elle m'a dit « Bon, ça va, je pense qu'on peut s'arrêter là. Bon. » Donc, si vous voulez, c'est pour vous dire que des gens qui ont bien compris le processus et qui sont capables de le mettre en œuvre simplement, eh bien, peuvent changer du tout au tout leur relation très rapidement. Il faut, alors, ce qui est tout de même très important dans l'affaire, c'est qu'il ne faut pas laisser s'éterniser les situations de conflit. Si vous êtes en conflit avec une personne, il faut éclaircir la situation avec lui ou elle. Et la règle des lettres est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez écrire donc, à une personne proche, à une personne plus lointaine. Mais si c'est une personne qui est fragile ou si c'est une personne que vous ne connaissez pas bien, faites attention de faire relire cette lettre par une tierce personne assez neutre pour savoir si la lettre est acceptable ou non. Et ce que je fais habituellement, moi, c'est que je mets dans la position de la tierce personne qui la recevrait pour savoir si cette lettre est acceptable ou ne l'est pas. Mais quelquefois, ce n'est pas suffisant parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement fragiles et il ne s'agit pas qu'il y ait des mots qui blessent parce que souvent, malheureusement, cette lettre a beaucoup de poids et d'ailleurs, c'est son intérêt, je dirais, mais c'est également son danger. Alors, je vous disais qu'il faut se connaître. Alors, quelquefois, effectivement, on a beau se forcer à écrire des choses correctes, on a beau s'efforcer d'envoyer des messages qui sont corrects, ça ne suffit pas. Alors, il y a encore deux petits exercices que je vais vous proposer avant de vous laisser me poser des questions. Le premier, c'est ce que j'appelle le bilan de vie. En quoi ça consiste? Ça consiste à prendre une feuille de papier, mais que vous allez mettre à ce moment-là dans la format à l'italienne, c'est-à-dire dans le format donc à plat, si vous voulez, ou ce qu'on appelle également le format paysage. Vous allez écrire en haut « bilan de ma vie ». Vous allez tirer un trait au milieu, c'est un exercice d'outplacement, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un exercice américain. Vous allez tirer un trait au milieu de la feuille et vous allez écrire à gauche le mauvais, à droite le bon. Alors, les gens me disent pourquoi à gauche, pourquoi à droite? Parce qu'en fait, on va de gauche à droite, donc on va du mauvais au bon quand on écrit. Bon. L'idée, c'est d'introduire une certaine dynamique dans cet exercice. Bon, si vous faites l'exercice à l'envers, ce n'est pas très très grave. Bon. Ce qui est très important après, c'est que vous allez tirer des petits alinéas et vous allez commencer chaque alinéa par « je ». Pourquoi? Parce que si vous mettez, par exemple, je ne sais pas quoi, parler avec un tel, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, ça va rester très abstrait. Donc, il faut des phrases qui vous permettent de vous prendre en charge, de prendre en charge les faits qui sont autour de vous. Je regrette beaucoup qu'un tel ait fait ceci, j'ai été très contente qu'une telle ait fait cela, je regrette d'avoir fait ceci, etc. Vous variez les mots pour que ça colle à votre pensée. Il est important d'être authentique. Authentique, c'est-à-dire, ce que je dis quelquefois, c'est que j'ai une lampe verte sur ma table, je dis, si vous voyez cette lampe rouge, ne vous dites pas que vous avez tort, dites-vous juste que vous êtes probablement daltonien. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez une idée, vous mettez pas à la place de la tante Agathe ou de l'oncle Gêne, mettez-vous à votre place. Donc vous énoncez les choses comme vous les pensez, sujet, verbe, complément, etc., comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est forcément confidentiel. Confidentiel, c'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez dit, ou même peut-être éternellement, vous ne montrez pas l'exercice à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la peine qu'on vous dise « ma pauvre choute, qu'est-ce que tu as écrit là? Tu es bonne pour l'asile, etc. » Donc ne le montrez pas, vous serez beaucoup plus tranquille. Surtout que votre inconscient anticipe tout ce qui se passe, donc il risque d'introduire des messages parasites dans ce que vous faites. L'exercice ne vous demande pas trop longtemps. Moi, ce que je dis, généralement une demi-heure à une heure, ça peut prendre plus de temps, mais pas forcément. Et surtout, ce qui est important, que vous le fassiez en plusieurs fois. Pourquoi plusieurs fois? Parce que vous savez très bien qu'une liste de courses, quand vous le faites en une fois, vous en oubliez la moitié. Et quand vous le faites en plusieurs fois, vous risquez de beaucoup moins oublier. En plusieurs fois, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui ne vous convient pas, vous l'oreillez d'un trait, pour ne pas le cacher. Et ce qui est très important, c'est, enfin pour mes patients, je demande qu'ils m'apportent l'original. Pour vous, ce qui est important, c'est que vous puissiez garder cet exercice. Alors bien entendu, j'ai fait d'un certain nombre de fois ce type d'exercice, les deux, et bon, à propos d'un certain nombre de gens. Et en fait, vous apercevez finalement que vous n'êtes souvent pas du tout objectif. Donc ces exercices, finalement, vous permettent de prendre en compte la réalité des choses, comme si vous étiez quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut savoir, et ça c'est Émile Coué qui l'a bien dit, c'est qu'en fait, quand vous avez fait quelque chose qui est à l'extérieur, l'inconscient ignore que c'est vous qui l'avez fait. Donc si vous voulez, c'est-à-dire que vous avez donc objectalisé vos pensées, vous en avez fait des objets, mais votre inconscient, qui est donc le registre affectif auquel on fait appel, eh bien, ne prend pas forcément en compte l'auteur de ce message, mais la nature de ce message. Donc si c'était une lettre écrite par oncle Gêne ou tante Agathe, ça serait exactement la même chose, à peu de choses près. Parfois, ce n'est pas suffisant, et c'est la troisième chose qui peut être importante, c'est pour savoir qui vous êtes, c'est ce que j'appelle la règle des projets. Ça, c'est un certain Hull qui a fait cet ouvrage, qui a fait cet exercice, mais enfin, peu importe. Il a écrit un ouvrage donc aux éditions de l'Homme et qui s'appelle « Vouloir ses pouvoirs », dans lequel il donne un nombre assez considérable d'exercices. Et ça, c'est son premier, que j'ai un peu transformé pour être plus efficace. Donc, l'idée, c'est que pour savoir qui vous êtes, c'est Descartes qui disait « je pense, donc je suis ». Moi, je vous dirais « je fais, donc je suis ». C'est-à-dire qu'en fait, d'une façon générale, c'est vos actes qui vous définissent. Bien sûr, il y a également vos pensées, mais il est beaucoup plus sûr de s'appuyer sur des faits et ce que vous avez effectivement réalisé. Parce qu'il est relativement facile de faire des quantités de choses, de dire des quantités de choses, mais quand il s'agit de le réaliser, surtout quand on le demande à des tierces personnes, donc il est beaucoup plus, je dirais, efficace de faire les choses par soi-même. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois de plus, chaque fois que vous faites quelque chose, chaque fois que vous êtes quelque part, votre inconscient prend en compte ce que vous faites, en continu. C'est ce qui explique l'histoire des petites Madeleines de Proust, que vous connaissez certainement. Proust qui était donc à Cabourg, enfin il dit Bolbec, mais c'est Cabourg, et qui donc, à un moment, voit surgir l'image des petites madeleines de son enfance, etc., qui courait derrière sa cousine dans un champ de pommes, etc. Et il s'aperçoit, en reculant de quelques mètres, qu'effectivement, il y avait une odeur de gâteau représentant donc ces gâteaux de son enfance. Ce qui se passe donc, c'est que sa mémoire avait accroché un détail de la réalité ambiante et avait raccroché à ça tout le reste, comme un train avec une locomotive et des wagons. Donc il faut savoir qu'en continu, votre inconscient enregistre les choses et vous les resserre, souvent de manière opportune, mais parfois de manière inopportune. Bon. Donc si vous voulez, la base, c'est « je fais, donc je suis ». Donc qu'est-ce que vous allez faire pour cet exercice? Vous allez écrire sur une première feuille tous les projets que vous avez en tête, quels qu'ils soient, même s'ils sont impossibles. Ce qui est très important, c'est qu'il faut savoir vous délivrer de vos fantasmes. C'est-à-dire, si vous voulez, il faut savoir libérer votre inconscient et lui permettre de s'exprimer et surtout de ne pas garder des choses à l'intérieur de vous-même. Et ce qui est assez curieux, c'est que même en psychothérapie, je vois des choses un peu curieuses. J'ai un patient, je lui dis, écoutez, je vous ai dit que c'était des choses impossibles qu'il fallait que vous écriviez, mais tout ça, j'ai l'impression que demain, vous pourriez les réaliser. Je lui dis, est-ce que vous n'auriez pas un problème, celui de prendre des distances avec la réalité ambiante? Il me dit, écoutez, ma femme vient de me le dire. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, cet exercice, il faut vraiment, je dirais, vous jeter à l'eau, dire un petit peu tout ce qui vous passe par la tête, à condition bien sûr que ce ne soit pas des pures folies, mais je dirais, si vous voulez devenir un aigle ou un hibou, peu importe, si vous voulez, parce que ça a une valeur symbolique, vous comprenez, l'aigle c'est la puissance, c'est éventuellement le fait de voler, etc. Vous pouvez éventuellement, évidemment, vous lancer dans le vol à voile après ou l'aviation, mais donc il faut savoir que vous devez dans un premier temps énoncer les choses telles que vous les pensez et ne pas vous fixer sur des vérités qui soient accessibles. Il faut là vous libérer. Et le second exercice à partir de ça, c'est-à-dire de recopier chacun de ces projets que vous aurez écrits sur deux listes. Une liste qu'on appelle la liste d'urgence, c'est-à-dire les choses les plus urgentes jusqu'aux moins urgentes, et une liste de préférence, c'est-à-dire celles qui ont le plus d'importance pour vous jusqu'à celles qui ont le moins d'importance. Ce que je dis par exemple, c'est si vous vouliez une maison de 10 millions d'euros, eh bien, parce que ça serait le rêve de votre vie, d'avoir un château avec une piscine, 10 hectares de terrain, un vignoble, etc. Eh bien, peut-être que ça serait la première chose dans votre souhait, c'est peut-être ce qui va en fait gérer votre vie, gouverner votre vie, et donc dans les préférences, vous le mettez en premier, mais c'est certain, vous n'avez pas certainement 10 millions d'euros dans la poche tout de suite, donc en termes d'urgence, c'est certainement la moins urgente qui soit. Par contre, si vous êtes en difficulté, parce que vous payez toujours des intérêts de retard d'impôt et qu'on est le 14 et qu'il faut payer ces intérêts le 15, en termes d'intérêt, en termes de préférence, ça n'a aucune espèce d'intérêt, donc ça peut être en dernier lieu, alors qu'en termes d'urgence, si on est le 14, c'est effectivement très important que vous le fassiez tout de suite. L'intérêt de ces deux listes, urgence et préférence, c'est que ça vous permet de hiérarchiser vos projets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans un flou total. C'est-à-dire que, si vous voulez, leur vie est une espèce de, je dirais, de nuages dans lesquels ils ne voient rien. Et le simple fait d'avoir écrit les choses leur permet de les... Je dirais que leur cerveau s'accroche dessus et de les voir, je dirais à la limite, comme le nez au milieu du visage. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'aimerais vous laisser quelques minutes donc de questions. Mais tout ça pour vous dire, ça a l'air un petit peu miraculeux tout ce que je vous raconte, mais je peux vous dire que je fais quasiment... Presque pour chaque patient, je propose presque pour chaque patient l'ensemble de ces exercices, et ça permet donc de faire des thérapies tout de même très brèves. Et même si je fais à côté des méthodes d'approche plus psychanalytique, donc un peu plus durable, ça permet donc de poser les choses dans un premier temps et de permettre donc d'éviter de perdre des séances et des séances à ce que les gens me racontent leur vie. Donc je vous remercie de votre attention, et les éléments qui vous semblent un peu trop brefs et trop succincts, vous pouvez me poser des questions. Donc je vous remercie.
Quelques minutes pour des questions.
Que faire quand la personne à qui on a écrit la lettre, à qui on a parlé ou à qui on a donné la lettre, refuse totalement, par exemple, de lire la lettre, refuse toute communication?
Alors, il y a deux solutions. D'abord, il faut savoir que nous avons à l'intérieur de notre tête ce qu'on appelle un observateur interne. En quoi ça consiste? C'est-à-dire que vous n'êtes pas un singe, enfin, bien si je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez des singes, mais moi aussi j'en suis un, rassurez-vous. Vous n'êtes pas un chat ou un chien qui vit, mais qui n'a pas justement la conscience de vivre. Nous avons un observateur interne, c'est-à-dire quelqu'un qui est toujours, enfin, une instance mentale qui est toujours en train de vous dire « Oui, je fais ceci, je fais cela, je pense ceci, je pense cela, etc. Bon. » Alors, donc, il y a cet observateur interne que vous pouvez mettre en jeu, qui est tout de même quelque chose, on va dire, d'assez archaïque, et que vous pouvez mettre en jeu d'une manière assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, mettez-vous devant la lettre, mettez-vous dans l'idée que vous êtes votre mère, votre père, la personne à qui vous adressez la lettre, et dites-vous, est-ce que cette lettre, je peux l'accepter si je suis cette personne? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si vous vous mettez à la place de cette personne, dans un état un petit peu méditatif, imprégnez-vous du physique de cette personne, imprégnez-vous de ce que vous ressentez quand vous êtes en face d'elle, pour quasiment vous identifier à cette personne. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses que vous avez écrites, ou que vous vouliez dire, ou que vous avez dites, et qui sont donc inacceptables. Bon. Alors corrigez, jusqu'à ce que ça soit accessible. Je vous donne un exemple. C'est qu'un jour, j'ai un de mes patients qui me dit, écoutez, voilà, je vais voir ma mère en province, mais à chaque fois que je la vois, elle me ridiculise. Et j'ai maintenant 50 ans, et donc je pense qu'elle va bientôt, tout de même vieillir, et je ne pourrai plus lui parler. Et donc, en fait, j'aimerais savoir comment faire. Je dis, monsieur, comment est votre mère, etc. Et j'ai découvert qu'au bout du compte, si on voulait pouvoir toucher sa mère, il fallait qu'il puisse lui parler en moins d'une minute. C'est-à-dire qu'il lui dise toute sa vérité, tout ce qu'il voulait lui dire en moins d'une minute. Donc je lui ai dit, écoutez, monsieur, ça va être très simple, nous allons rédiger donc ce genre de document, cette lettre, jusqu'à ce que vous ayez pu dire l'essentiel de ce que vous voulez dire en moins d'une minute. Et donc nous sommes arrivés un certain vendredi, il partait voir sa mère le dimanche, et je lui ai dit, écoutez, votre lettre, elle est presque bien, mais vous n'allez pas pouvoir le faire passer en une minute. Parce qu'il ne s'agissait pas donc de lui faire lire la lettre, il s'agissait de lui dire le contenu, parce qu'il avait bien conscience que cette femme ne pourrait pas, ne refusait de la lire. Et je lui ai dit, écoutez, mettez-vous même dans la tête qu'il ne faut pas une minute, il faut que vous ayez à lui dire toute la vérité de votre vie en 30 secondes, et vous aurez les 30 secondes ensuite par surcroît. La fois suivante, donc à peu près 15 jours après, il revient ravi. Il m'a dit, j'ai pu lui parler. En fait, ce qui se passe, c'est c'était un homme obstiné et intelligent. Il avait donc réussi à faire passer les mots les plus importants, je dirais, dans les 15 premières secondes, ce qui a fait ce qu'on appelle une accroche. Vous savez que les orateurs ou même les hommes de théâtre, quand ils veulent captiver leur public, ils font ce qu'on appelle une accroche, c'est-à-dire quelque chose qui va intéresser l'auditeur. Et puis ensuite, ils vont profiter de cette accroche pour continuer leur baratin. Excusez-moi du thème. Bon. Et donc, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait donc bien compris cette histoire, que j'avais d'ailleurs racontée. Et donc, il a pu parler à sa mère et il a été soulagé. Et donc, sa mère, qui avait donc 80 ans passé, il avait le sentiment d'avoir, je dirais, ne plus avoir ce fardeau sur les épaules. Voilà. Donc, il faut toujours se mettre dans la situation de la personne que vous avez en face, en vous mettant dans une approche, on va dire, minimale, dans des conditions, on pourrait dire, relativement précaires, et que le message passe encore. Vous comprenez? Tout ça, c'est ce qu'on appelle des méthodes de visualisation, et qui fonctionnent parfois tout à fait bien. Alors, petite chose qui est assez particulière, c'est qu'un jour, j'ai une patiente qui me dit, voilà, j'ai un amant. Un amant, c'était plutôt un ami parce qu'elle n'était pas mariée. Et c'est quelqu'un de tout à fait intelligent, mais il faut que je m'en débarrasse parce qu'il occupe toute ma vie. Je suis une véritable serpillière en face de lui, etc. Je ne peux plus rien dire. Je suis décidé à rompre avec lui. Et dès que je le vois, je lui dis oui, bien sûr, mon chéri, etc. Et je suis parti pour la prochaine fois. Je dis, madame, vous allez faire donc cet exercice. Et ensuite, vous allez lire cette lettre à voix haute. Pourquoi à voix haute? Parce que vous allez mémoriser justement dans cette mémoire, on l'appelle une mémoire tampon, si vous voulez, toutes ces phrases, et elles vont ressortir, je dirais, d'une manière quasiment automatique. La fois suivante, elle me dit, vous savez ce qui s'est passé? Je dis non. Elle me dit, voilà, ma bouche, dès que mon ami m'a téléphoné, ma bouche s'est ouverte et a commencé à parler. Et j'étais surpris du phénomène, parce que je ne pensais pas que c'était possible, surtout j'avais rien décidé. Et comme j'ai trouvé que ma bouche ne disait pas des choses idiotes, je l'ai laissé parler, puis j'ai attendu. Et elle m'a dit, au bout du compte, j'ai donc pu rompre avant même d'avoir décidé quoi que ce soit. La seule chose que j'ai décidé, c'est reposer le combiné. Et donc, mon ami n'avait pas pu bouger. Et donc, j'avais donc rompu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, elle a bien utilisé son inconscient. C'est-à-dire que son inconscient a pris en charge l'affaire et donc lui a permis de réaliser ce que jamais elle n'aurait pu faire par elle-même. Donc, vous voyez, il y a quelquefois des mécanismes un petit peu particuliers qui peuvent vous surprendre, mais qui sont là et qui peuvent vous sauver le cas échéant.
Oui, j'ai l'impression que dans votre méthode, la réaction de la personne à qui on parle n'est pas importante finalement.
C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est qu'en trois quarts d'heure, il faut arriver à passer ça. Et ensuite, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un conflit, c'est que vous êtes en face d'une personne que vous connaissez. Donc je dirais à la personne qui est, à qui vous parlez, c'est quelque chose que vous, enfin quelque chose, quelqu'un que vous avez déjà intériorisé. Vous avez déjà anticipé la réaction de l'autre. Et alors ce qui se passe, et qui est souvent un peu dramatique, c'est que non seulement vous avez anticipé la réaction de l'autre, mais vous avez pensé à sa place. C'est vous vous dites, ah oui, je vais lui dire ça, mais il va penser ça, il va me dire ça, et je vais lui répondre ça, etc. De ça. Et bien sûr que c'est à un niveau négatif que vous pensez ce genre de choses, et qu'on arrive donc à des catastrophes. Je dis à certaines personnes, écoutez, arrêtez de vous mettre à la place de l'autre, laissez-le parler, laissez-lui la liberté de parler, et vous allez voir que les choses vont s'arranger. Donc si je ne vous parle pas de la tierce personne, c'est qu'en fait, quelque part, si vous la connaissez, vous êtes capable d'anticiper ce qu'elle peut faire, mais surtout, vous mettez dans une position positive, voyez. Bon. Et puis, bon, je pourrais en parler pendant 10 heures encore, donc je pense que je vais m'arrêter. Mais c'est pour vous dire tout de même que, non, il n'est pas question de nier la personne qui est en face, mais essayer d'avoir l'attitude la plus positive pour qu'elle puisse, à son tour, vous répondre de manière correcte, etc., et qu'il s'agisse donc d'un vrai échange entre deux personnes. Voilà, je vous remercie.
Merci monsieur. Vous pouvez rencontrer monsieur Vallon sur les stands, puisqu'il va rester quelques minutes avec nous.
Voilà, alors donc j'ai apporté à peu près une dizaine de livres sur les 17 que j'ai écrits, et puis il y en aura, je pense, suffisamment. Et donc je les dédicace pour ceux que ça intéresse. Merci beaucoup.